Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, bonsoir Thomas.
Bonsoir Virginie, bonsoir à tous, bienvenue dans RTL Soir. À la une ce soir, y aura-t-il de la grève à Noël? La question se pose à mesure que les jours passent et que le climat se tend. Il y a une concertation qui doit se faire, a dit Emmanuel Macron tout à l'heure. Au même moment ou presque, Édouard Philippe tweetait sa volonté d'organiser une réunion à Matignon, répétant « ma porte est ouverte ». En attendant, il y a encore 540 km de bouchons ce soir en Ile-de-France. En attendant, demain, le trafic sera encore très perturbé à la SNCF et à la RATP. 8 lignes de métro seront fermées. Autant de sujets dont nous parlerons avec la ministre Elisabeth Borne à 18h15. Pour lui poser vos questions, vous nous appelez tout de suite au 3210. Les autres grands titres de l'actualité, c'est avec vous Isabelle Choquet. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. Et dans ce journal, nous serons dans l'une des manifestations qui avaient lieu partout aujourd'hui en France. Action locale pour maintenir la pression sur le gouvernement. Et puis vous parliez de la grève dans les transports, mais ça bloque aussi dans l'énergie. 5 raffineries sur 8 paralysées et les syndicats menacent maintenant de bloquer la production de carburant. À suivre également une attaque antisémite dans le métro parisien. La victime parlait hébreu au téléphone. Et puis les élections législatives au Royaume-Uni, au-delà de Boris Johnson, c'est le Brexit qui est en jeu et ça se joue à quelques sièges. La Bourse de Paris, elle clôture ce soir en hausse de 0,40% à 5884 points. Les courses à Chantilly, il fallait jouer le 15, le 6, le 4, le 13 et le 11.
Autre rendez-vous à 18h35 dans RTL Soir. Élise Lucet sera avec nous pour nous parler d'une enquête stupéfiante sur la pédophilie dans le sport. Mais tout de suite, c'est la météo et c'est avec vous, Louis Baudin. Bonsoir, Louis.
Bonsoir, Thomas. Bonsoir à tous.
Demain, on pourrait résumer la météo par un aïe aïe aïe. Hein.
Aïe aïe aïe, oui, exactement. Mmh. J'allais commencer comme ça, puisqu'effectivement, on est là dans un flux très perturbé qui ne va pas cesser jusqu'à dimanche. Et on y est, c'est-à-dire cette nuit et demain, on retrouvera ce temps très agité avec des passages nuageux, des averses, du vent jusqu'à 90, 100, voire 120 km/h cette nuit dans la moitié nord. Demain, c'est plutôt la moitié sud qui subira ces vents jusqu'à 100, 110 km/h sur les côtes. Mais 100 km/h également dans la hauteur des terres, autour du Massif central, au pied des Pyrénées. Tout ça donnera beaucoup de neige en montagne. Attention, des 800, 900 mètres sur tous les massifs. Et ça durera toute la journée avec de nouveau un risque d'avalanche en fin de journée. Et puis près de la Méditerranée, un peu plus de soleil, mais avec là aussi beaucoup de mistral et de tramontane. Les rafales dépassant les 100 km/h. Les températures, elles seront plutôt en hausse. 7 à 10 degrés dans la moitié nord, 10 à 13 degrés en Bretagne et dans le sud, et jusqu'à 17 degrés près de la Méditerranée.
Merci Louis, à tout à l'heure.
Thomas Soto, RTL Soir.
Et si on commençait avec un peu de soleil, Isabelle?
Mais quelle bonne idée. Figurez-vous que les JO 2024 de Paris auront un petit parfum de Monoï. Le comité d'organisation a tranché. Les épreuves de surf n'auront pas lieu à Biarritz ou en Bretagne, mais à Tahiti, sur le site de Teahupu. Cela promet d'être très spectaculaire. Les vagues peuvent dépasser les 5 mètres de haut. Bonsoir Isabelle Langer.
Bonsoir.
Tahiti, c'est beau, mais c'est loin. À première vue, on se dit que c'est quand même pas très très bon pour le bilan carbone des Jeux.
Eh bien, détrompez-vous, c'est pas moins bien parce que c'est à Tahiti. Et pour cause, la majorité des surfeurs s'entraînent ou habitent même dans cette région à ce moment-là de l'année. Comme la fameuse vague de Teahupu se forme à 800 mètres du rivage, peu de spectateurs, seulement 1500 maximum, pourront assister à la compétition. Ils auraient été 20 fois plus sur la côte basque. En fait, si Tahiti a été choisi, c'est justement pour l'aspect sportif. La qualité des vagues, fin juillet, début août, assure une compétition de très haut niveau et un spectacle incroyable pour les 4 milliards de téléspectateurs. Enfin, associer la Polynésie française à Paris 2024 est aussi un aspect non négligeable, notamment aux yeux du gouvernement. Alors, outre Tahiti, le COJO, le comité d'organisation des Jeux Olympiques, a validé le site de la place de la Concorde pour accueillir les 5 sports urbains, dont le skateboard, le basket 3-3 et le breakdance. Écoutez, Tony Estanguet, le patron de Paris 2024.
Alors que nous avions la Tour Eiffel, le château de Versailles, les Invalides, le Grand Palais, c'était un petit peu dommage et frustrant de ne pas du tout avoir les Champs-Élysées et cette place de la Concorde. Voilà, c'est un site qui est vraiment iconique et qui va proposer là aussi, et pour les athlètes et pour les spectateurs et téléspectateurs, une expérience qui, je crois, est assez dingue quand on regarde le visuel. C'est quand même très, très, très spectaculaire.
Effectivement, je vous invite à aller sur RTL.fr pour voir la photo de cette arène de 35 000 places
à
la Concorde.
Un stade olympique à l'ancienne.
Exactement, si vous me permettez, ça a de la gueule.
Merci Isabelle Langer.
Si vous avez besoin de quelqu'un au service des sports pour couvrir le surf à Tahiti, je peux.
D'accord, voilà. On note.
On aurait peut-être pu essayer le surf aussi sur la place de la Concorde.
Ce soir, on peut, avec ce qui tombe.
Il pleut.
C'est vrai.
On en vient à la réforme des retraites. Édouard Philippe n'a pas éteint l'incendie, bien au contraire. La présentation du projet hier matin n'a fait que renforcer la détermination des opposants. Ils le disent aujourd'hui dans la rue. Journée d'action locale, des milliers de personnes ont manifesté à Lyon, Nantes, Bordeaux ou Limoges. À Paris, on a défilé dans le calme entre Nation et République. Benoît Martin, secrétaire général de FO Paris, bat le rappel.
Notre but, c'est pas de tenir sur la durée. Notre objectif global, c'est le retrait de ce projet de réforme. Et plus on sera nombreux en grève le plus tôt possible, plus ce retrait a des chances d'advenir. Tout le monde est concerné. Ce sera encore pire dans le privé. Le montant des pensions de retraite est assise et calculé à partir des 25 meilleures années. Avec le régime par points, il n'y aura plus du tout ce système-là. Et donc, ce sera le reflet de toutes les périodes de galère qu'on peut avoir le long d'une carrière, notamment dans le privé. Et donc, on appelle vraiment tout le monde à lutter, on vous défendra, on sera là à vos côtés pour obtenir le plus tôt possible le retrait de ce projet de réforme.
Benoît Martin au micro RTL de Nicolas Burnand.
Alors la prochaine journée de mobilisation, ce sera mardi, Isabelle.
Oui, d'ici là, la grève dans les transports se poursuit. Pour demain, prévoyez un TGV et un Transilien sur 4 en moyenne, 4 TER sur 10. À la RATP, léger mieux mais si peu, 8 lignes de métro totalement fermées et un bus sur deux en circulation. Les syndicats se disent déterminés à tenir jusqu'à Noël et au-delà s'il le faut, pas de trêve des confiseurs. Et du coup, ce soir encore, grosse pagaille sur les routes, Vincent Serrano.
Oui, retour très compliqué une nouvelle fois pour les Franciliens. Plus de 547 km de bouchons cumulés en Île-de-France. Circulation difficile sur tous les axes ce soir, mais en particulier sur la 86 à la sortie de Gennevilliers, sur le périphérique intérieur et extérieur entre la porte de Bercy et la porte d'Orléans. On descend au sud de Paris pour vous signaler également un accident sur l'A6 vers la province. Une voie de circulation est neutralisée. Soyez très prudents puisque la pluie n'arrange pas vos conditions de circulation. Trafic très perturbé à la sortie de Lyon, au croisement entre la 46 et la 43 à hauteur de Saint-Priest. Un peu plus loin, au niveau de Grenoble sur la 41 et sur la 8 entre Cannes et Nice où vous faites face à 10 km de bouchons cumulés.
Merci Vincent Serrano. Lundi, ce sont les routiers qui entrent dans la danse et puis le secteur de l'énergie se mobilise lui aussi depuis le 5 décembre avec des coupures de courant ici et là. Et aujourd'hui encore, 5 raffineries bloquées sur 8. Aucun camion ne sort. Hugo Hamelin, vous êtes sur le site de l'Avera dans les Bouches-du-Rhône et on se prépare carrément à stopper la production.
Absolument, dans l'une des plus importantes raffineries du pays. Les cheminées tournent au ralenti. Devant la grille, Sébastien Varagnol, le délégué CGT, explique que les annonces d'Édouard Philippe n'ont pas convaincu grand monde ici.
On le remercie pour les annonces qu'il a faites parce qu'on avait un taux de grévistes qui était de l'ordre de 70-80% avant ces annonces. Et depuis qu'il a parlé, on a 90% du personnel qui sont en grève et qui nous ont demandé de durcir le mouvement. Ce qui est sûr, c'est qu'à partir de maintenant, il n'y a plus aucun produit de type essence, gasoil, jet pour les avions qui sortira de notre entreprise.
La prochaine étape pour ces grévistes, c'est de stopper la production de carburant jour après jour. Ils ralentissent le débit de la raffinerie pour un arrêt total des machines. Chine dès lundi matin.
Ben, le risque de pénurie il est réel puisque l'on est en train d'arrêter, toutes les raffineries sont en train de s'arrêter. Ça va empêcher les rentrées de taxes, la TICPE, je crois qu'ils appellent ça maintenant, et ça va forcément impacter l'économie de la France.
L'objectif, c'est d'obliger l'État à puiser dans ses stocks stratégiques et selon les grévistes de cette raffinerie, eh bien, c'est déjà le cas.
Reportage RTL d'Hugo Hamelin à la raffinerie de l'Avera dans les Bouches-du-Rhône.
Alors, si on se résume, Isabelle, on a d'un côté un mouvement qui menace de se durcir et de durer, et puis de l'autre un gouvernement qui essaye de tendre la main.
Oui, gouvernement qui a réussi à fâcher les syndicats les plus réformistes en évoquant un âge d'équilibre à 64 ans pour les départs en retraite. La ligne rouge est franchie, on dit en chœur à la CFDT et l'UNSA. Alors, dès hier soir, Édouard Philippe a indiqué qu'il n'était pas fermé à la discussion, et cet après-midi, le Premier ministre a promis d'appeler les partenaires sociaux dès aujourd'hui. Les syndicats sont-ils sensibles à cette opération séduction, Christophe Pandiot ?
Bah écoutez, oui, ce soir, les lignes bougent. Les premiers appels ont commencé, même si certains s'étonnent évidemment de ce changement de ton, moins de 24 heures après les annonces de la réforme. Tous, syndicats réformateurs et gouvernement, tous sont favorables au dialogue. Et pour Frédéric Sève, en charge des retraites à la CFDT, ces appels du pied de l'exécutif sont tardifs mais positifs.
Je l'interprète comme une volonté d'aboutir à un accord. Si c'est comme ça, en tout cas, c'est tant mieux, ça nous va bien. Une ligne, ça se franchit dans tous les sens, dans toutes les directions. On peut noter les bonnes intentions, mais après, il faut aller au-delà.
Au-delà, cela veut dire avoir un engagement concret, un rendez-vous à Matignon et surtout être entendu, car la mesure qui fâche de l'âge pivot à 64 ans impacterait les départs à la retraite dès 2022. Cyril Chabanier, le président de la CFTC.
Nous souhaitons cette réforme universelle par points. Nous demandons simplement que la mesure de l'âge pivot soit retirée ou en tout cas qu'on n'ait pas un calendrier qui nous soit imposé puisqu'aujourd'hui, en fait, on n'a aucune marge de manœuvre. Donc on est toujours ouvert à la discussion.
À condition aussi que la question de la pénibilité de l'ensemble des métiers soit prise en compte par l'exécutif, prise en compte des risques chimiques ou du port de charges lourdes. Sans cela, aucun accord ne semble en l'état possible avec les organisations réformistes.
Merci Christophe Ponzio du service économie d'RTL. Le Premier ministre, on le voit, est à la manœuvre. Emmanuel Macron, lui, assiste aujourd'hui au sommet européen à Bruxelles. C'est lui qui a tranché en dernière minute sur ce fameux âge pivot. Mais désormais, il se garde bien d'intervenir.
Je ne ferai aucun commentaire national, vous savez. Il y a un président de la République qui défend les intérêts français, fait avancer notre agenda européen ici. Il y a un gouvernement qui travaille à Paris, qui a fait une proposition. Et maintenant, il y a une concertation qui doit se faire. Voilà. Merci à vous.
Emmanuel Macron au micro RTL de Bénédicte Tassard.
Une info en bref avant la pause. Patrick Balkany a été hospitalisé tout à l'heure au lendemain de l'ouverture de son procès en appel pour fraude fiscale. Il souffre horriblement du dos, dit son entourage, et il fait de l'hypertension. Enfin, c'est son épouse Isabelle qui nous donne ces informations. Dans un instant, Boris, hors notre Boris, on file en Grande-Bretagne.
Il est 18h10. Thomas Soto, RTL Soir. Non. Prix appel. Il est 18h12, c'est la suite de RTL Soir avec vous Thomas Soto et la suite du journal d'Isabelle Choquet.
Et on passe de l'autre côté de la Manche, Brexit, hors notre Brexit Isabelle.
Oui, les Britanniques votent aujourd'hui, scrutin législatif décisif pour l'avenir du Royaume. Selon les derniers sondages, Boris Johnson devrait rester Premier ministre, mais avec quelle majorité, ça c'est toute la question. Il ne manque que quelques sièges aux conservateurs pour prendre vraiment la main et quitter l'Union Européenne le 31 janvier. Sinamir, vous êtes l'envoyé spécial d'RTL près de Birmingham dans les Midlands. Les bureaux de vote sont ouverts jusqu'à 22h heure locale. Et jusque-là, eh bien, la bataille fait rage.
Oui, notamment dans cette région annoncée décisive. Malgré une météo affreuse, beaucoup ont anticipé la tombée de la nuit pour aller voter, notamment côté conservateur, pour faire basculer ces sièges manquants dans l'escarcelle de Boris Johnson. Scott est mécanicien à West Bromwich.
La seule chose qui marche dans le coin, c'est notre équipe de football. Il faut que ça change. Le Brexit prend trop de temps. À mon avis, il n'y a pas qu'ici que ça va être serré, mais on ne peut pas de nouveau hériter d'un Parlement bloqué. On veut un seul parti pour mener bien le Brexit.
Une issue synonyme de désastre pour beaucoup de travaillistes qui se sont tout de même réveillés dans les tout derniers sondages, mais pas au point d'imaginer une victoire cette nuit de leur candidat Jeremy Corbyn.
C'est bien sûr très décevant de voir des villes traditionnellement travaillistes, des villes ouvrières, voter conservateur. Je pense que la colère des gens est justifiée. Notre meilleur espoir est d'avoir un Parlement divisé. Pourquoi faire les choses rapidement? On a encore besoin de temps.
La colère des classes populaires ou moyennes dans ces Midlands contre la peur du vide des classes un peu plus aisées. En 2017, 8 sièges avaient manqué à Theresa May. Une cinquantaine sont en ballotage ce soir pour permettre peut-être à Boris Johnson de réussir son Brexit et son pari.
Sinamir, envoyé spécial d'RTL au Royaume-Uni. On vote aussi en Algérie aujourd'hui, présidentielle contestée par la population. À 15h, le taux de participation était de 20% seulement. Des dizaines de milliers de personnes manifestent à Alger et en Kabylie, le vote a dû être brièvement interrompu. Les manifestants avaient envahi un centre électoral.
Merci beaucoup Isabelle.
RTL Soir, 18h14.
Comment sortir de la galère dans les transports? Vaste question qui ce soir semble insoluble. Dans un instant, Elisabeth Borne est l'invitée d'RTL Soir.
Et pour poser vos questions à Elisabeth Borne, 3210.
Thomas Soto, RTL Soir.